L'histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le professeur Claude Aziza. Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame.
Vous venez de publier aux Belles Lettres un livre délicieux, Pompéi, promenades insolites, un ouvrage de 275 pages vendu 25 euros, qui se présente sous la forme de promenades, une dizaine à la façon des grands auteurs d'autrefois, entraînant le lecteur moderne à Pompéi, mais pas seulement la Pompéi historique, celle aussi fantasmée que nous avons rebâtie. Cette fin du XVIIIe siècle, Claude Aziza, est intéressante parce qu'elle va voir surgir à la jonction du XVIIIe et du XIXe deux femmes, les deux souveraines successives du royaume de Naples, l'archiduchesse d'Autriche Marie-Caroline, qui a épousé Ferdinand II, le fameux Nazone, et Caroline Murat, l'épouse du maréchal Murat, la sœur de Napoléon. Toutes les deux vont se passionner pour Pompéi. Qu'est-ce qui explique cet engouement de ces deux jeunes femmes pour cette civilisation enfouie? Ce ne sont pas des latinistes, ce ne sont pas des érudites.
Non, pas du tout. Elles sont, je ne dirais pas mal mariées, mais elles sont mariées. Elles ont un mariage difficile. Ferdinand, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, est un imbécile.
C'est un bel abruti, oui.
C'est un abruti. Et il faut que Caroline demande à son frère, qui est co-empereur d'Autriche, de venir l'engueuler. Et il vient. Et son rapport est accablant. Caroline Murat a fait un mariage, semble-t-il, hein, a fait un mariage heureux, mais son mari, c'est un soldat.
Et il n'est jamais là, c'est certain.
Non, il n'est jamais là et il va mal jouer. Car il va trahir Napoléon, ce qui causera sa mort d'ailleurs. Mais il a une vertu, c'est une vertu de soldat, c'est lui qui va prendre en main les fouilles.
Vous êtes un bon organisateur, oui.
Voilà, d'une façon militaire. Quant à la troisième, c'est peut-être finalement la plus érudite. En apparence, c'est une danseuse, disons que c'est une fille un peu libertine, enfin peu importe.
Ouais, elle est très belle, elle a beaucoup de succès.
Elle a beaucoup de succès, elle est peinte partout, mais surtout, elle a épousé Lord Hamilton. Et Lord Hamilton, alors lui, c'est un érudit.
C'est l'ambassadeur d'Angleterre à Naples.
Voilà, c'est l'ambassadeur d'Angleterre, c'est un érudit, il va sur le Vésuve, il creuse partout, de temps en temps, il rapporte des choses qu'il garde pour lui. Il a invité à une soirée Goethe, quand il est venu à Pompéi, et Goethe dit d'une façon un peu ironique, oui, il y a beaucoup d'objets pompéiens chez l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Mais c'est un érudit. Alors, a-t-il communiqué à sa femme la passion de Pompéi? Vraisemblablement. Mais il est vrai qu'il y a quand même une grosse différence d'âge et que la jeune Emma va se réfugier à la fois par stratégie et en même temps par amour, dans les bras,
il
n'en reste plus qu'à, le bras de Nelson. Et pourquoi? Par amour, bon, je ne sais pas pourquoi, mais par stratégie, c'est tout simplement la flotte anglaise est là pour protéger Naples. Et d'ailleurs, c'est Nelson qui va exfiltrer Ferdinand et Caroline lorsqu'il y aura l'invasion française, ceci par deux fois. Une fois avec le général Championnet, une autre fois avec les Murat. Et alors c'est intéressant, et je trouve ça très, très émouvant, d'ailleurs je ne le savais pas, c'est que vous connaissez bien sûr le Guépard, et dans le roman Le Guépard, il y a une ville qui est une ville tout à fait imaginaire qui s'appelle Donna Fugata. Et ce Donna Fugata, c'est le surnom qui a été donné à Caroline parce que c'est la dame qui s'est enfuie. Parce qu'elle est partie deux fois, elle s'est enfuie précipitamment de Naples. Vous voyez que quand même, elle a une gloire posthume un petit peu inattendue.
C'est un personnage de premier plan, avec un caractère effrayant. Et c'est rappeler à nos auditeurs qu'elle est aussi la mère de Marie-Amélie, la dernière reine de France, l'épouse de Louis-Philippe.
Oui, bien sûr. Et donc, on a là cette femme, mais comment dire, il y en a d'autres de femmes. Il y en a d'autres, mais qui sont plus antiques. J'en parle. Il y a bien sûr Poppée.
Poppée, l'épouse, la seconde épouse de Néron, qui effectivement est d'une famille pompéienne.
Eh oui, Poppée est d'une famille pompéienne. Et lorsque vos auditeurs et auditrices pourront de nouveau, je l'espère, aller à Pompéi, il faudra ne pas manquer au Pontis la Villa Palais de Poppée. Et Poppée est d'une famille pompéienne par son père et par sa mère. C'est-à-dire que, du côté maternel, ce sont de riches pompéiens qui ont des maisons extraordinaires. La maison des Amours Dorées, par exemple, appartient à la famille Poppée. Et du côté de son père, eh bien, la maison de Ménandre, par exemple. Donc, elle est sans doute la romaine, l'impératrice la plus aimée des pompéiens. D'ailleurs, on voit son nom partout, gravé sur les murs. Et par voie de conséquence, son mari, l'empereur Néron, est vraiment aimé des pompéiens.
Et pas seulement des pompéiens. D'ailleurs, il est très étonnant de voir que Néron fut un empereur populaire dont on a beaucoup pleuré la mort dans le peuple.
Absolument. Absolument. Finalement, cet aspect diabolique de Néron, c'est les pères de l'Église qui l'ont façonné, bien entendu. Il n'en reste que cela. Mais en fait, Néron est très populaire et il restera très populaire à tel point même qu'on croira qu'il y a un second Néron, que Néron n'est pas mort, il y a un Néron réfugié chez les Parthes, dont on s'apercevra par la suite qu'en fait c'était un comédien. Mais enfin, peu importe. Et donc Néron et Poppée sont aimés des Pompéiens. Et ils en fait beaucoup d'ailleurs, vraisemblablement, pour Pompéi.
Poppée est une femme d'influence, mais ce que je trouve très intéressant dans votre livre, entre autres choses, c'est qu'elle n'est pas la seule. Vous citez des Pompéiennes beaucoup plus simples, des commerçantes, des femmes d'affaires, dont on découvre qu'elle joue un rôle, ou elle ne vote pas, mais elle joue un rôle dans la vie politique.
Absolument. Absolument. Il y a deux femmes qui m'ont toujours intéressé, entre autres. Hein. Il y en a eu beaucoup d'autres. Plus peut-être des héroïnes de rêve que des héroïnes réelles. C'est Julia Félix. Alors maintenant, on peut enfin visiter l'immense domaine de Julia Félix, qui est une femme d'affaires. C'est rarissime, elle n'est pas mariée, c'est une femme d'affaires, peut-être que Félix s'initie et qu'elle descend d'un affranchi, pourquoi pas, ou bien simplement parce qu'elle a été heureuse en affaires. Je vous rappelle que Claude a deux affranchis qu'il a placés quasiment au sommet de l'État, l'un c'est pas là, c'est l'autre c'est Félix. Et cette femme-là, c'est une femme d'affaires. Elle a senti le vent tourner après le tremblement de terre de 62. Elle a modifié une partie de ses domaines. Bref, c'est une femme importante sur laquelle on ne sait pratiquement rien, sinon ce qu'imaginent les romanciers. Et quant à l'autre qui m'intéresse aussi, c'est Azélina. Alors Azélina, c'est très intéressant parce que les gens qui vont à Pompéi et qui errent comme ça, comme des poulets dont on a coupé la tête et qui ne savent pas où aller, se retrouvent, quand vous allez à Pompéi, vous avez des gens qui sont tous regroupés autour d'un seul endroit, c'est le lupanar. C'est le lupanar, c'est un des lupanars, parce qu'il y en avait plusieurs, bien entendu.
Dire qu'il a été très bien reconstitué.
Oui, oui. Pour ça, les archéologues, pour ça, pour le reste, les archéologues sont parfaits. Mais pas très loin du lupanar, quasiment presque en face, il y a l'auberge d'Azélina. Et l'auberge d'Azélina, elle est intéressante, parce que Azélina, c'est une patronne, la patronne de l'auberge. Alors, c'est une auberge où on mange, où on dort vraisemblablement, mais aussi où on peut avoir des petits cabinets intimes parce qu'il y a des pensionnaires qui ne sont pas des prostituées, mais qui sont des filles un petit peu légères. Et ce qui est intéressant pour nous, hein, pour le... Et ce qui est intéressant, c'est que sur le mur de l'auberge, on a le nom de ces pensionnaires. Et on voit un petit peu quel est le panel féminin. Et si je vous parle de cela, c'est que ces pensionnaires et d'autres d'ailleurs jouent un rôle dans la campagne électorale. Par exemple, elles vont toutes demander à ce qu'on vote pour Polybius. Alors Polybius, on le connaît parce que c'est un boulanger, on met Polybius fait du bon pain. Alors on peut imaginer que ce Polybius était gêné peut-être, qu'il ait été soutenu par des femmes... Non pas de mauvaise vie, parce qu'à l'époque, ça n'a pas de terme. Enfin, des femmes dont tout le monde connaissait
la profession.
Nature. Oui, la prophétie, sans qu'il y ait d'ailleurs le moindre discrédit moral sur cette prophétie. On est dans l'Antiquité. Voilà, le christianisme n'a pas encore régenté les mœurs.
Ce sont souvent des esclaves, d'ailleurs, ces femmes.
Oui, ce sont souvent des esclaves, pas toujours. On ne sait pas trop, hein. Parce que celles qui sont dans le lupanar, on ne les connaît pas.
On ne connaît que leur spécialité.
Oui,
elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas de...
Oui et non, oui et non. Alors ça, c'est une longue querelle, si vous voulez, dans laquelle je ne peux pas prendre parti, mais sur laquelle j'ai mes idées. Vous savez qu'on a... bien sûr qu'il y a des tableaux, en quelque sorte, dans le lupanar central, le lupanar de Pompéi, mais en revanche, on a trouvé dans le lupanar qui se trouve à la porte, qui est donc un lupanar extérieur, d'une certaine façon, qui sont des termes, en fait. Et on a trouvé dans ces termes énormément de gravures obscènes. Or, nous ne connaissons dans l'Antiquité aucun terme qui soit à la fois terme et lupanar. Et donc, plutôt que d'imaginer cela, ce qui est quand même gênant quand on a un attaque, en quelque sorte, une seule fois, on a imaginé qu'au fond, ces termes avaient inventé la première forme de publicité de l'Antiquité. C'est-à-dire que quand vous allez, de nos jours aussi, hein, quand vous allez dans une salle de gymnastique, ben vous avez des casiers où vous mettez vos vêtements. Et les casiers étaient numérotés, 1, 2, 3, 4, mais plutôt que d'avoir des casiers numérotés, on avait à la place des numéros des gravures obscènes, de façon que, comme ces termes étaient un peu mal placés, ça faisait venir les gens qui venaient voir ces gravures. Donc, le fait qu'il y ait des gravures obscènes devant, enfin obscènes à nos yeux, bien sûr, n'est pas forcément la preuve qu'il... celle dont la couche est sous la gravure obscène pratiquait cette spécialité.
Ça pourrait être simplement un casier un peu, disons, illustré pour attirer le public.
Oui, je pense que c'était ça.
C'est intéressant comme hypothèse.
Oui, 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 c'est... Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette hypothèse des termes suburbains, hein, de ces termes lupanar, entre guillemets, a été émise par une seule, je dis une seule, parce que c'est la... C'est une femme, c'est une archéologue italienne. Alors, tout le monde a postulé au crime, mais non, qu'est-ce que c'est, quelle imagination, etc. Mais je trouve que c'est très intelligent. C'est très intelligent, et en même temps, ça montre bien que, finalement, ces lupanars avaient peut-être pas uniquement cette fonction-là. D'ailleurs, on vient de trouver récemment, ça veut dire, il y a très peu de jours, un autre lupanar. Mais il y en a. Pensez bien que, quand vous avez une cité qui doit faire à peu près... mettons 20 000 habitants, 20 000, 25 000, avec beaucoup de marins, je rappelle quand même que
c'est
la mer...
C'est un port, il ne faut pas l'oublier.
C'est un port, eh bien, on a des lupanars.
On a de la clientèle.
Ben oui, il y a de la clientèle, c'est ça qui est intéressant, en fait. Mais bien sûr, au 19e et au 18e, et puis surtout au 19e, avec la rigidité du 19e siècle, c'est pas très très intéressant d'ailleurs. Il faudra attendre le 20e pour qu'on commence peut-être à s'intéresser un petit peu plus profondément et plus sérieusement à cela.
Il y a une autre femme que vous évoquez, que vous associez au destin de Pompéi. Je n'avais jamais entendu cette hypothèse, je trouve ça remarquable. C'est Bérénice, la reine de Judée, la maîtresse de Titus. Et donc vous dites qu'elle aurait pu mourir dans l'éruption du Vésuve.
Bah, écoutez, je vais vous faire un aveu. Je pose plusieurs grandes questions sur l'Antiquité, qui sont des questions futiles, mais à mes yeux, elles sont capitales. J'en ai au moins deux en ce qui concerne des femmes. Comment se fait-il qu'il y ait pratiquement, à part un film de patronage, aucun film sur Didon ? Et pire encore, comment se fait-il qu'il n'y ait aucun film sur Bérénice ? Ça, je ne comprends pas.
Est-ce qu'on peut passer après Racine ?
Au cinéma, parfaitement. Bien sûr, il n'y a pas de problème, oui, parfaitement.
Alors, il est vrai que le cinéma en a fait d'autres.
Oui, on a fait d'autres, mais je pense qu'on peut passer un film. Alors, Didon et Bérénice, surtout Bérénice, qui est quand même un personnage historique. Bérénice a une histoire extraordinaire. Bon. Alors, ce qui m'a toujours troublé, et j'avoue, d'ailleurs, faut rendre à César, c'est à César, j'avais vu vaguement dans un roman de Daniel Delouche, un excellent roman qui s'appelle Bérénice, la reine humiliée. Elle disait, tiens, elle a disparu, mais comment ? Sans donner d'ailleurs de détails, on n'en parle plus, est-ce qu'elle n'aurait pas été du côté de Pompéi ? Et c'est en tombant sur une phrase de Flavius Joseph, qui malheureusement d'ailleurs aurait dû être suivie d'autres, mais elle n'a jamais été suivie, qui nous explique que parmi les victimes du Vésuve, alors comment il le sait ? Je n'en sais rien. Il y avait le neveu de Bérénice. Alors, le neveu de Bérénice, c'est quoi ? C'est qui ? C'est tout simplement, je vous parlais tout à l'heure du procurateur Félix. Le procurateur Félix avait épousé une sœur de Bérénice, dont on disait, Priscilla, dont on disait qu'elle était encore plus belle que Bérénice. Ils sont partis à la retraite. Hein. Félix, c'est celui qui rencontre Paul. Hein. Il faut donc un procurateur très, très, très connu. Donc, ils partent à la retraite et ils ont un fils qui épouse Roséki. Et nous savons par Joseph, le seul à nous le dire, que finalement, ils ont trouvé la mort à Pompéi. Dans l'éruption du Vésuve, d'ailleurs. On peut imaginer que c'est à Pompéi. Comment le fait-il? Je ne sais pas. Alors, mon hypothèse est la suivante. Après 79, Bérénice disparaît. Vraisemblablement, elle est venue à Rome, peut-être en avril ou mai 79. Titus ne l'a pas reçue. Elle a continué à plaider pour elle, hein, dans un procès. Et puis ensuite, après mai 79, c'est fini. Comment imaginer que cette femme, très connue, qui est quand même la sœur du petit roi Agrippa II, que tout le monde connaît, que Flavius Joseph connaît, bien entendu, comment imaginer que cette femme n'ait plus donné aucun signe de vie? Je me dis que dans les hypothèses raisonnables et romanesques, bien entendu, j'adore les hypothèses romanesques, on peut imaginer que tout simplement, bah, elle a été en villégiature, rendre visite à, bah, à son neveu et à sa nièce. Et puis, bah, qu'elle s'est retrouvée là, et qu'elle a disparu, et que peut-être c'est pour ça qu'on n'entendra plus jamais parler de Bérénice après mai 79, quelque chose comme ça.
Claude Aziza, je vous remercie infiniment. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de ce merveilleux Pompéi, Promenades insolites, parues aux belles lettres, un livre vendu 25 euros et qui les vaut largement. Je vous remercie encore, Claude Aziza, pour cet excellent moment.
Je vous remercie aussi et à bientôt.